Et les scientifiques et les éthologues qui n'en finissent plus de découvrir les capacités des animaux en nous livrant les secrets de leur langage, de leur adaptabilité, de leur intelligence, de l'éléphant aux oiseaux en passant par les rongeurs et les insectes. L'homme n'est donc plus le seul à posséder des capacités cognitives sophistiquées. Le monde animal recèle de nombreux talents et c'est l'objet de notre dossier cet après-midi. Pour comprendre l'intelligence animale, j'attends bien sûr vos questions, vos messages sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. Axel Villard, bonjour.
Bonjour.
D'autres histoires d'animaux à la une de la science, puisque dans un instant, on va évoquer des spermatozoïdes de souris lyophilisés qui voyagent dans l'espace.
Et des biologistes japonais qui font naître de petits souriceaux avec pour tester l'impact du voyage sur la fertilité. Une analyse critique de cette étude dans un instant avec le radiobiologiste Nicolas Forêt.
Et puis nous retrouverons la chronique de santé polémique du docteur Dupagne qui s'est intéressé cette semaine à la nouvelle ministre de la Santé. Stéphanie Texier est aux commandes de l'émission qui a été préparée par Chantal Le Montagnier avec Benoît Tonzon.
La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
On va donc parler dans un instant de l'intelligence des animaux avec mes invités, la chercheuse Emmanuelle Puy-Debat et Yolaine Delabigne. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Bienvenue.
Bonjour,
Emmanuelle Puy-Debat, de la hiérarchie de l'intelligence avec l'homme au sommet. C'est terminé, hein. C'est même ridicule de l'envisager aujourd'hui, non?
Oui, c'est ridicule. Il est temps de remettre l'humain à sa place, c'est-à-dire une goutte d'eau dans l'évolution, une goutte d'eau dans l'intelligence. L'intelligence, elle est plurielle, elle est partout et l'humain n'est pas au sommet. Non.
Bon, ça fait mal à notre ego, mais il faut s'y faire.
Voilà.
C'est comme ça, tout ça. Bien partagé. Yolaine Delabigne, on peut même parler d'émotion aujourd'hui chez les animaux, hein, sans craindre de se faire rire au nez. Hein.
On peut parler d'émotion, de sens de l'humour, de sens de la spiritualité, de sens de la mort, on peut parler de tout ça. Donc c'est une vraie révolution en fait, philosophique qui se passe actuellement. Darwin l'avait déjà dit, hein, il avait dit que dès qu'il y avait du vivant, il y avait de l'intelligence. Mais au 19e siècle, on n'était pas prêt à écouter. Ce qu'il y a de formidable maintenant, c'est que vous avez toute l'éthologie qui apporte, ça y est, des conclusions incroyables et que la population est prête à entendre ça. Ouais. Donc là, il y a un truc énorme qui se passe.
Et ça se passe en ce moment et nous en sommes les témoins et vous allez nous raconter plein d'histoires passionnantes à ce sujet. On vous retrouve dans quelques minutes avec les messages des auditeurs qui nous rejoignent. Les candidats pour les futurs voyages lointains dans l'espace ont-ils à s'inquiéter pour leur fertilité? Question posée aujourd'hui à la une de la science.
La prochaine inconnue est la façon dont la microgravité affecterait la fertilité. Une longue exposition aux radiations spatiales pourrait abîmer à la fois le sperme et sans doute tous les ovules d'une femme.
Et c'est de spermatozoïdes justement dont nous allons parler, puisqu'une équipe de chercheurs japonais vient de faire naître en laboratoire de petits souriceaux avec des échantillons de sperme qui ont séjourné pendant 288 jours dans la Station Spatiale Internationale, une publication qui a fait pas mal de bruit dans la presse ces derniers jours et que nous allons détailler et passer au crible avec vous, Nicolas Forêt. Bonjour.
Oui, bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes radiobiologiste, directeur de recherche à l'INSERM. Vous avez également travaillé avec le CNES pour les sujets liés au spatial. Alors, quelles sont d'abord les conditions particulières du séjour dans l'espace qui posent question concernant la fertilité?
En fait, l'espace, on n'est pas protégé par l'atmosphère et la magnétosphère, et donc du coup, on va être soumis au rayonnement cosmique qui va faire une sorte de bain de radiation. Et ce bain de radiation, va notamment impacter sur l'ADN. Et les conséquences de ces dommages de l'ADN sont importantes puisque ça peut faire des cancers, ça peut faire rien du tout. Est-ce que ça va également impacter la fertilité? C'était la question posée par l'équipe des Japonais. Ils ont donc envoyé dans l'espace du sperme de souris pendant 9 mois. Et congelé. Ce sperme était congelé, c'est-à-dire que ça interdit toute réparation. Donc, on laisse tranquille le sperme de souris, et puis ensuite, on le ramène et on insémine des souris. Alors, juste avant d'inséminer, on regarde s'il y a quand même des cassures. Et ensuite, ils ont inséminé des souris et ils ont regardé si le taux de fertilité et les souris elles-mêmes étaient en bonne santé.
Alors, est-ce que les souriceaux vont bien?
Alors, les souriceaux vont bien, et j'allais dire, c'est peut-être pas forcément une grande surprise, dans le sens où cette étude a été faite seulement sur 9 mois. Alors, 9 mois, ça peut paraître long aux auditeurs, mais vu les radiations, vu le débit de dose de radiation qui existe dans l'espace, finalement, c'est pas énorme.
Ouais, 9 mois, c'est pas le temps de gestation de la souris, hein, on est d'accord. Hein.
Alors oui, tout à fait, oui.
Alors selon vous, il aurait fallu que ce sperme passe combien de temps dans l'espace pour qu'on ait à craindre quelque chose pour sa qualité?
Ben, Alors, ce qui est fou, c'est que c'est les Japonais eux-mêmes qui le disent. Ils disent qu'il aurait fallu peut-être 2 ans, à peu près, 2 ans et demi, pour éventuellement voir des effets, parce que les dommages qui ont été causés sont en tout petit nombre. Très probablement, tout a été réparé. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on va inséminer une souris, il va y avoir l'embryogenèse, il va y avoir les premières divisions des cellules. Et là, que ça soit pour les souris comme pour l'homme, on a une énorme barrière de sécurité qui est qu'à la moindre cassure, la prochaine division cellulaire ne se fait pas. Donc en gros, l'embryogenèse est un filtre à cassure. Et du coup, le fait qu'il y ait peu, on va dire, d'ADN endommagé, eh ben, peut donner des embryons tout à fait normaux.
Quand vous parlez de cassure, vous parlez de cassure dans l'ADN.
Voilà, c'est des cassures double bras, on va dire des trous, hein, puisque les dépôts de doses, les dépôts des radiations vont créer des oxydations et qui vont casser le brin d'ADN.
Est-ce que le sperme de souris est un bon modèle pour tester l'impact quand on s'intéresse à la fertilité des hommes?
Ben justement, non, c'est toute la question. C'est que, en fait, chaque espèce a des particularités au sein de la quantité d'ADN et de son degré de compaction. En gros, plus les animaux sont petits, plus les noyaux cellulaires sont condensés. Et il se trouve que l'homme est, en gros, 2 fois, 3 fois plus radiosensible que la souris. Donc, évidemment, si on se pose une question sur l'homme et qu'on regarde chez la souris, c'est l'éternel problème de l'extrapolation entre les modèles animaux et l'homme qui va poser problème.
Alors, vous nous dites un temps d'exposition pas assez long et le mauvais modèle. Est-ce que cette étude sert à quelque chose quand on se pose la question de la fertilité du voyage dans l'espace?
On est entre nous. On est entre nous.
Alors, c'est d'autant plus extraordinaire que eux-mêmes, les Japonais, qui sont tout à fait honnêtes et qui ont fait une méthodologie, j'allais dire, tout à fait rigoureuse, le disent. Ils disent, voilà, on a trouvé ça. Mais finalement, bon, peut-être que d'autres personnes avaient trouvé un peu plus, peut-être qu'il y avait d'autres choses à faire et notamment prolonger la mission. Alors, il y a un autre aspect qu'il faut voir aussi, c'est que tout ceci a été fait en absence d'événements solaires, qui est le plus gros risque de radio-induit pour les astronautes, parce que là, on a des pics de doses qui n'ont absolument rien à voir avec le bain de radiation dont je parlais.
Mais est-ce qu'on a des indices qu'il y a un risque? Est-ce qu'on a, parmi les hommes qui ont connu le voyage dans l'espace, des cas d'infertilité ou de baisse de qualité du sperme?
Alors, la question, la réponse est très claire, non, pour 2 raisons. D'abord parce que si on recense tous les astronautes depuis Yuri Gagarin jusqu'à nos jours, on a à peu près 500 à 600 astronautes. Et les épidémiologistes nous disent on peut rien voir à partir de ce peu de nombre d'astronautes. D'autre part, ces astronautes n'ont pas eu les mêmes missions. Yuri Gagarin est resté 2 jours, il y a des Russes qui sont restés plus d'un an dans l'espace. Et puis, une fois encore, concernant la fertilité et l'embryogenèse, je répète, il y a une vraie barrière qui sont les premières divisions et les systèmes de réparation. Et là, c'est un petit peu en profilé ce qu'on voit et ce qu'on entend, hélas, de ce que j'appellerais le mythe du mouton à 5 pattes, où les effets, les conséquences héréditaires d'une exposition, bah, finalement, sont très 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 peu documentées, que ça soit entre Hiroshima, Tchernobyl, etc. On a très peu de choses. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose quand on a des chimiques, par exemple.
Mais Nicolas Forêt, on n'a pas demandé à Thomas Pesquet de donner son sperme pour la science, par exemple, en ce moment dans l'ISS.
Non, mais très franchement, s'il m'avait demandé, j'aurais osé lui dire que c'était peut-être pas la peine. Ou alors qu'il fallait qu'il reste un peu plus longtemps.
Ah, bah alors ça, oui.
Alors là, on comprend bien que le protocole n'est pas très convaincant. Est-ce qu'on peut en imaginer un qui permette de répondre à la question?
Mais en dehors du fait qu'ils ont utilisé les souris, on peut utiliser exactement le même protocole, mais beaucoup plus longtemps, avec, des aspects un petit peu différents qui sont très spécifiques à l'homme, notamment le fait que nous ne sommes pas égaux face aux radiations et qu'il est évident que, en termes de dommages et de réparation de l'ADN, eh ben, tout le monde ne va pas réparer de la même façon. Par contre, en termes de barrière de fertilité, ça c'est autre chose. On peut penser que, quoi qu'il arrive, on n'a pas de vraie mutagenèse qui va se passer. Par contre, on aura ou pas des divisions qui vont se faire.
Est-ce qu'on ne pourrait pas envoyer du sperme humain et des ovules, puisqu'on ne parle que de sperme depuis tout à l'heure, dans l'espace pour voir l'impact d'un voyage long?
Mais c'est bien ce que je reproche à mes collègues japonais, c'est que je ne sais pas pourquoi ils l'ont pas fait. Alors bon, il y a peut-être après des raisons éthiques, des raisons pratiques. Vous savez, souvent, quand on commence une expérience, surtout des expériences préparées de très très longue date, le matériel biologique est soumis à beaucoup d'épreuves. Et c'est sûr que là, ils ont utilisé, c'est pas péjoratif, mais la facilité pratique.
Donc la souris est pratique pour ça, justement. Merci beaucoup, oui. Nicolas Forêt, pour vos explications et donc cette étude qui est parue là ces derniers jours. Et Axel, on se retrouve demain.
À demain.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique. Pourquoi les baleines bleues sont-elles si grandes? Tiens, question pour mes invités. Eh bien justement, question d'apparence enfantine qui excite aussi beaucoup les biologistes de l'évolution. Eh bien, une équipe américaine propose aujourd'hui une explication tout à fait originale. Lionel Delabine, vous en avez entendu parler peut-être?
Oui, c'est pour s'adapter à la glaciation, c'est ça?
Exactement.
Et échapper, ouais.
Si les baleines sont si grandes, c'est à cause du dernier âge glaciaire, parce qu'en étudiant les fossiles connus et en balayant plus de 30 millions d'années d'évolution du groupe apparenté aux baleines bleues actuelles, eh bien les scientifiques montrent que le gigantisme apparaît seulement sur les derniers millions d'années de leur évolution, et selon les scientifiques, pendant le dernier âge glaciaire qui a eu lieu il y a 5 millions d'années, la quantité de krill dont se nourrissent les baleines dans l'océan a augmenté considérablement, et donc résultat, ça a conduit à la sélection d'organismes de plus en plus massifs, adaptés à une nourriture abondante. Voilà donc une explication intéressante. Chasseurs-cueilleurs et fermiers vivaient ensemble au néolithique. Il est souvent admis qu'après l'émergence de l'agriculture, il y a environ 10 000 ans, deux types de populations se sont rapidement séparées en Europe. Les fermiers possédant la technologie se seraient installés et sédentarisés, tandis que les chasseurs-cueilleurs seraient restés nomades. Une séparation qui, d'un point de vue de l'ADN, aurait dû donner des lignées bien distinctes. Eh bien, cette théorie s'avère fausse, en tout cas pour les populations qui vivaient dans l'actuelle Roumanie. L'analyse de l'ADN de plusieurs restes humains datés entre moins 8000 et moins 5000 montrent une très grande mixité entre ces deux groupes, preuve que les communautés partageaient régulièrement les mêmes ressources autant que le couchage. Et puis le magazine Pour la Science change de look pour son 40e anniversaire cet automne. Le mensuel revoit complètement sa formule. Un graphisme plus sobre, des polices affinées pour laisser la place à plus d'images, des rubriques nouvelles qui viendront s'ajouter d'ailleurs une version en ligne. À la une donc de ce nouveau numéro de Pour la Science actuellement en kiosque, les nouveaux tests de Turing, l'hépatite C et les langues sifflées. Et l'intelligence animale, ça c'est notre dossier à nous dans La Tête au Carré et dans un instant. Climb of the age of the Hollywood sign, yeah. In these stolen moments, the world is mine. There's nobody here, just us together. Keeping it hot, let you lie forever.
Take off all your clothes, take off, 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 take off,
et la voix de Lana Del Rey avec Lust for Life.
La tête au carré, jusqu'à 15h, sur France Inter.
Et l'intelligence animale au cœur de notre dossier. On aime beaucoup ce sujet. Emmanuel Puy-Debas, vous êtes biologiste, chercheuse au CNRS, au Muséum National d'Histoire Naturelle. Vos travaux portent sur l'évolution des comportements et notamment sur les capacités de manipulation et d'utilisation des outils. On verra que chez les animaux, on utilise des outils, même chez les animaux marins d'ailleurs.
Oui.
Et vous publiez l'intelligence animale, cervelle d'oiseau et mémoire d'éléphant chez Odile Jacob, avec une préface d'Yves Coppens, Yolaine de la Bigne. Quel plaisir de vous retrouver, d'entendre votre voix.
Merci.
Vous êtes journaliste à l'origine de l'université d'été de l'animal que vous avez créée l'année dernière en Bretagne, pas loin de Saint-Malo. Et vous publiez justement les conférences qui ont été données par sept scientifiques dans ce livre « L'animal est-il l'avenir de l'homme ?» qui est sorti chez Larousse. Et d'ailleurs, vous reprenez là cet été, c'est ça ?
Bien sûr, ouais. Il y a une nouvelle université d'été les 25, 26 et 27 août avec plein de gens passionnants. On va parler de loups, de requins, d'araignées, d'animaux aimés. Ou d'animaux pas aimés.
On donnera le lien pour aller vous retrouver donc au mois d'août. Et les auditeurs qui nous rejoignent avec les messages sur franceinter.fr. Et le mot-clé, l'attaque. Racontez-nous d'abord, toutes les deux, comment vous avez été orientées sur la question de l'intelligence animale. Emmanuel Puy-Debas, il y a un long cheminement que vous rappelez justement dans votre livre qui vous a fait passer par la case Yves Coppens et Jeanne Goodall. On peut dire les choses comme
ça. Oui, la première case, c'était la case Yves Coppens, effectivement. Ouais.
Une fascination, mais alors c'est dingue.
Oui, un coup de foudre.
Ah vraiment?
Un coup de foudre, oui, j'étais jeune adolescente. J'ai lu Le singe, l'Afrique et l'homme pour commencer. Je l'ai revu après à la télé, le professeur Coppens. Et j'ai vraiment eu un coup de foudre pour le professeur et pour Lucie, les deux en même temps, j'ai envie de dire. Ah
ouais. Et j'étais australopithèque.
Voilà, petite Lucie, petite australopithèque, dans un peu plus de 3 millions d'années. Et j'étais fascinée parce que quand j'étais plus jeune, je l'imaginais en train de vivre en forêt, en savane. Tout ça, c'était très
mélangé.
C'était
loin du Collège de France. Hein.
Oui, là, j'étais pas encore. Non, j'y étais pas encore. Et oui, puis toutes les périodes se mélangent. Un petit peu à cet âge-là. J'avais des dinosaures. J'imaginais Lucie lutter contre les dinosaures. C'était pas terrible au niveau au niveau scientifique, c'était pas terrible, mais au niveau de l'imaginaire, c'était fantastique.
Bien,
Et en fait, donc après, j'ai enchaîné les lectures. Et puis, je suis tombée sur un autre livre qui m'a en fait. Qui a plus concrétisé ma vision scientifique. C'est-à-dire qu'avec le professeur Coppens, j'imaginais Lucie, je me demandais pourquoi c'était un australopithèque et pas un humain. Est-ce que c'était pour des raisons morphologiques ? Est-ce que c'était pour des raisons de comportement ? Je voyais bien qu'on utilisait l'outil pour définir l'humain. Est-ce que je me suis très vite demandé, est-ce que l'outil, ça suffit pour définir un humain ? Et puis là, j'ai lu Jane Goodall. Alors là, c'est un deuxième coup de foudre. J'étais un peu plus âgée, j'avais 17-18 ans, et j'ai lu Les chimpanzés et moi de Jane Goodall, et alors là ça c'est les choses sont ont
c'est
été
les portes
très
de l'Afrique là qui se sont ouvertes complètement pour vous.
Complètement, et là elle racontait vraiment comment elle observait les chimpanzés avec tous les comportements qu'on connaissait pas à l'époque. C'est vraiment elle qui a fait connaître plein de comportements qu'on pensait spécifiquement humains à l'époque, dont l'utilisation d'outils. Et là je me suis dit en fait voilà, au départ je voulais comprendre le passé en travaillant sur le passé, et puis je me suis dit je vais essayer de comprendre le passé mais en travaillant sur le vivant, et aujourd'hui j'essaye de faire le lien entre les deux, entre le passé et le présent, et c'est pas facile.
Vous êtes partie en Afrique?
Oui, un petit peu.
Et puis quand même vous avez été amenée à rencontrer Coppens, parce que c'est ce qui devait arriver.
Oui.
Et il est devenu votre directeur de thèse.
Ça c'est une belle histoire, parce que dans mon imaginaire le professeur Coppens n'existait pas, si vous voulez. Donc c'était un rêve éveillé, et puis j'avais arrêté mes études faute de financement de thèse, et puis un jour, j'ai quand même candidaté, comme on dit, dernière chance, au prix de la vocation, et le professeur siégeait dans ce jury.
Ouais.
Et donc voilà, mon projet de thèse a été sélectionné. Il est devenu mon directeur de thèse, et voilà, et j'ai pu commencer l'aventure concrètement à ce moment-là.
C'est chouette comme histoire, non?
C'est magnifique, j'adore. Voilà. En plus, elle parle d'icônes.
Voilà, exactement. Goodall, et le cheminement d'une scientifique qui aujourd'hui donc travaille sur le comportement des animaux, l'intelligence animale et la question justement des outils. On va en discuter avec vous. De votre côté, Yolaine de la Bigne, alors parallèlement à votre carrière de journaliste, vous aviez déjà ce centre d'intérêt pour les animaux ?
Alors moi j'ai toujours adoré les animaux, mais en fait ça m'est venu pour Néoplanète. À chaque fois que j'interviewais des spécialistes et je leur disais alors la sixième extinction, c'est affreux, les animaux vont disparaître, ils me disaient tous ah non, l'homme va disparaître, l'animal il va s'en sortir, il est super malin, il a un pouvoir de résilience. Et donc je me disais mais c'est épouvantable quoi. Et donc on a fait tellement de découvertes incroyables que je veux porter cette parole, parce que je pense que aujourd'hui l'humanité société face à, évidemment, la crise environnementale, mais les robots, l'intelligence artificielle. Donc, il y a un problème d'intelligence collective. Comment on va se dépatouiller avec tout ça? Et parmi les pistes, il y a cette intelligence animale. Les animaux peuvent énormément nous aider dans beaucoup, beaucoup de domaines. Donc, je me suis dit, il faut que cette parole soit portée. D'où l'idée d'une université d'été de l'animal où je réunis chaque année des grands spécialistes et l'idée de ce livre que, évidemment, j'aimerais même qu'on traduise dans différentes langues pour que les gens se rendent compte, vraiment, que l'humanité se rende compte que on doit vivre avec les animaux, on n'arrivera pas à vivre sans eux.
Oui,
et en plus, c'est passionnant d'un point de vue intellectuel.
C'est ça, les scientifiques génial. Nous le rappellent régulièrement. Pascal Pic était à votre place il y a 2 jours. Il est justement dans cette université d'été avec l'un de ses textes, tout comme Gilles Boeuf, Norine Chai ou Claudine André. Mais c'est vrai que le nombre de publications aujourd'hui, Emmanuel Puydebat, qui sortent sur les animaux et sur leur intelligence, leur capacité cognitive, c'est assez impressionnant quand même. Hein,
oui, bah après, dans notre domaine, sur des publications internationales, ça fait quand même un moment que ça sort. Après, je pense que c'est l'aspect communication, peut-être, qui est en train d'exploser en ce moment en communication au grand public. Et ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Bravo à Yolène et merci à elle pour diffuser au plus grand nombre ces informations et aux médias. Parce qu'il y a vraiment des comportements qui sont méconnus et qui nécessitent d'être connus justement pour qu'on prenne conscience de certaines choses. Oui.
Surtout que maintenant, en effet, ce qu'on disait, les gens sont prêts. Dire aux gens que les animaux ont le sens de l'humour, je pense qu'il y a 10 ans, on se faisait jeter quand même.
C'est
si
vrai.
On disait ça.
Et aujourd'hui, on le dit tranquillement.
Ben oui.
Absolument. Alors, si l'intelligence est partagée par tous les animaux, est-ce qu'il y a encore quand même des différences entre l'homme et les autres animaux, on va dire, des différences marquantes qui, d'une certaine manière, ont sorti l'homme de l'animalité. C'est Gilles Boeuf, hein, Yolène Delabine, qui en parle, en reprenant des points clés, au fond, de l'évolution humaine et des grandes inventions qui ont marqué l'histoire humaine, quand même, et qui font peut-être un peu la différence.
Alors, l'explication de Gilles Boeuf, c'est que pour lui, l'homme, c'est celui qui va se réutiliser l'outil, alors que l'animal va avoir tendance à laisser l'outil quelque part, ce qui est, à mon avis, pas tout à fait vrai. Je suis désolée pour Gilles. Et je pense qu'on a trouvé maintenant qu'il y avait des tas d'animaux qui réutilisaient leurs outils. Donc moi, à chaque fois que j'interviewe des gens, ils me disent en fait, il n'y a pas de différence. Chacun a son intelligence en fonction de ses besoins. Ce que Darwin avait déjà dit, le ver de terre, il a son intelligence d'agriculteur en fait. Au fond, c'est un agriculteur de la terre, mais il ne sait pas aller sur un ordinateur. La fourmi, elle a l'intelligence pour se déplacer. C'est pour ça qu'on a inventé le GPS en étudiant les algorithmes des fourmis. Et l'homme, il a l'intelligence d'aller sur la Lune et d'inventer un ordinateur. Chacun a son intelligence, donc c'est très compliqué en fait d'expliquer la différence entre les animaux et l'homme finalement.
La domestication du feu par exemple, Emmanuel Puydebat, ça c'est typiquement humain quand même.
Oui, c'est pour une nécessité alimentaire typiquement humaine aussi.
Mmh. Oui, alors moi je vais vous dire un truc, c'est que il y a un moineau, que c'est au musée, des ethnologues ont observé un moineau qui arrivait avec son petit ver, il le mettait sur le capot de la voiture, il faisait cuire le petit ver et il le mangeait après. Et ils ont remarqué que les oiseaux adorent quand c'est cuit. Non mais c'est génial.
C'est vrai. Donc finalement
il avait inventé le barbecue.
C'est ça, exactement.
Moi, ce qui est sûr, c'est que c'est très compliqué de faire une hiérarchie entre les espèces. Dans telle espèce est plus intelligente qu'une autre. Si on utilise le mot intelligence en termes d'adaptation comportementale pour un bénéfice, disons, c'est une définition très très large, vous allez avoir certaines espèces qui sont très très performantes pour certains comportements et beaucoup moins pour d'autres. Et l'espèce humaine, elle échappe pas à cette règle. Donc c'est un animal parmi d'autres, l'espèce humaine, avec des points forts, des points faibles, comme tous les autres, comme toutes les autres espèces.
Et ce que vous nous dites, c'est au fond une façon de regarder les choses aussi, de se mettre à hauteur de l'animal pour pouvoir comprendre aussi ses formes d'intelligence. C'est ça,
oui,
hein, c'est de se mettre dans son cerveau, au fond. Est-ce que c'est une histoire de cerveau, au fond, l'intelligence animale?
En partie, mais en tout cas pas de taille, parce que j'entends encore régulièrement que cette histoire de taille du cerveau, c'est pas un problème de taille du cerveau. La complexité du cerveau, elle est pas que liée à sa taille. Et on sait aujourd'hui, par exemple, il y a des publications récentes qui montrent que certaines espèces d'oiseaux ont même plus de neurones que nous dans certaines zones du cerveau. Donc c'est pas un problème de taille du cerveau.
Les crevisses, elle a un cerveau aussi. C'est quelle taille?
Les crevisses, on en parlait ce matin avec un collègue justement. C'est certains animaux, notamment chez des arthropodes, c'est des ganglions nerveux et c'est comme des mini cerveaux qui sont distribués dans le corps et qui vont se transmettre des informations, et ça les empêche pas, sans avoir un gros cerveau comme le nôtre, de faire plein de choses très intéressantes.
Oui, parce qu'elle étudie les écrevisses et l'intelligence du Bernard l'Hermite aussi.
Elle a raison, c'est hyper passionnant. Pour reprendre,
je débute en Bernard l'Hermite, mais c'est passionnant.
Pour reprendre sur votre question, en fait, c'est vachement compliqué parce que le fameux test du miroir que tout le monde connaît, on met sur un animal une tache et on le met devant une glace, on voit, et on part du principe que s'il a compris qu'il avait une tache, il a conscience de lui-même. Les pies y arrivent très bien, l'éléphant y arrive très bien.
Ouais.
Par contre, le chien n'y arrive pas. Est-ce que ça veut dire que nos chiens n'ont pas de conscience d'eux-mêmes? En fait, non. Donc c'est ça qui est passionnant dans ce truc, c'est un puits sans fond, parce qu'en fait, on ne sait pas exactement les choses, on est en train de redéfinir, et c'est ça qui est génial.
Sublime et silence, autour de moi tu danses et moi j'oublie. C'est à toi que je pense, à ta bouche brûlante quand tu souris.
Center de l'Université du Texas, Antoine Spiteri a construit une machine à trous pour singes. La carotte, un raisin, si je puis dire. Le singe doit d'abord faire tourner un disque pour permettre au raisin de tomber dans un trou. Ensuite, il doit actionner un levier qui ouvre une porte et le fruit tombe. Antoine Spiteri montre à cette femelle chimpanzé comment fonctionne cette boîte. Et avec un peu de grenadine, on fait des merveilles. Faire tourner. Puis baisser. C'est gagné.
Et voilà. Mais un exemple parmi tant d'autres hein, chez les primates, Emmanuel Pludebas.
Ah oui, oui, c'est sûr, il y a beaucoup d'exemples.
Il y a beaucoup d'expériences
chez les primates qui montrent. Il y en a même qui montrent que les chimpanzés font mieux que nous dans certaines catégories, comme la mémoire spatiale, par exemple.
Ah oui, par exemple, ils sont meilleurs que nous.
Oui, oui, oui. Il y a une expérience qui a été faite au Japon par le professeur Matsuzawa. Il a mis des chimpanzés, des étudiants en ingénierie devant des écrans. Le but était d'essayer de mémoriser l'emplacement des chiffres de 1 à 9. Donc, ils avaient quelques fractions de seconde pour observer l'ordre des chiffres qui était masqué ensuite par des rectangles blancs. Et il fallait donc ensuite pointer les chiffres dans le bon ordre pour avoir une récompense. Et les chimpanzés font ça mieux que nous.
Ouais, Yolaine Delaville,
ils le font en 7 dixièmes de seconde, les humains. Et ils ont un chimpanzé qui est le champion. Personne n'a réussi à le battre depuis 14 ans. Il le fait en 2 dixièmes de seconde.
C'est ça.
Et il explique, c'est super intéressant, le chercheur, il explique qu'en fait, à force d'avoir développé un langage, on a perdu une intelligence justement de la mémorisation dont ils ont besoin pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure. Le singe, il a besoin de repérer le prédateur très rapidement et de voir comment il bouge. Donc il a développé une mémoire spatiale extraordinaire, alors que nous, bah, à force de parler, on a oublié ça. Donc cet exemple est super intéressant et personne n'arrive à le battre depuis 14 ans.
Abdel nous dit, comment les éthologues font pour faire la différence entre ce qui est de l'intelligence ou du déterminisme dans le monde animal?
Oula, ça,
allez,
c'est
question
ça,
de philo quasiment. Hein,
c'est
Pluba.
Pas une question simple. Si par déterminisme la personne pense à génétique, c'est compliqué. On essaye de faire des liens entre comportement et génétique, mais c'est pas simple. C'est pas simple. Donc j'ai pas la réponse là, comme ça, j'ai pas la réponse. En tout cas, c'est un sujet de thèse à lui tout seul. C'est un programme de recherche à lui tout seul.
Jean-Louis nous dit, la différence entre l'outil des hommes et ceux des animaux, c'est que l'homme utilise des outils secondaires. Je casse un nodule de silex avec un autre caillou pour faire un couteau, je fais un outil avec un autre outil, alors que les animaux, comme les chimpanzés ou les loutres de mer, utilisent des outils primaires. Il prend un caillou pour casser une noix sans changer la forme de ce caillou.
Alors, oui et non. Après, ce qu'on a parfois dans le monde animal, qui est peut-être même encore plus complexe, c'est des enchaînements de différentes tâches pour obtenir, pour atteindre un but. Par exemple, chez les corneilles, il y a des travaux qui ont montré que sur un dispositif très compliqué pour obtenir une nourriture, donc l'animal observe le dispositif et il est obligé d'enchaîner différentes tâches pour pouvoir avoir sa nourriture. Et s'il n'a pas compris depuis le début les différentes tâches qu'il devait accomplir, il n'y arrive pas. Donc j'ai envie de dire, c'est un processus. Alors que c'est pas de la manipulation du même outil plusieurs fois, mais c'est un processus cognitif qui est probablement même plus compliqué.
Ouais.
Donc faut essayer de pas hiérarchiser systématiquement les humains avec les, parce que l'intelligence humaine, c'est l'intelligence humaine, l'intelligence des chimpanzés, c'est l'intelligence des chimpanzés, l'intelligence d'une fourmi, c'est l'intelligence d'une fourmi, et c'est difficile de hiérarchiser des comportements comme ça différents, parce que finalement chaque comportement va avoir sa propre complexité.
Ouais. Yolaine Delabigne, l'intelligence du cochon, l'intelligence du rat, ça vous passionne ça aussi,
mais
hein?
C'est passionnant, ouais. Mais ça fait rire. Mais
ou
en
de
fait,
la vache, par
là,
exemple.
J'ai interviewé il n'y a pas longtemps quelqu'un sur les rats et il nous racontait qu'en fait notre fantasme de l'invasion de rats est complètement faux, parce qu'en fait les rats d'abord ont très peur de l'homme et s'adaptent à la population. Avec une maman rat, la femelle, elle va d'abord vérifier est-ce qu'elle a assez d'eau, est-ce qu'elle a de quoi manger, est-ce qu'elle a de quoi nidifier. Si elle n'a pas, elle ne fait pas de bébé. Si elle a... Tout va bien, elle va en faire 6 ou 7. C'est dingue, quoi. Elle est capable de préparer sa maternité. Je suis désolée, mais il n'y a pas beaucoup d'espèces. En tout cas, les humains, ils ne savent pas faire. Hein.
Chez les rats, il y a beaucoup de travaux qui montrent leur capacité. C'est magnifique. Il y a des travaux qui datent un petit peu maintenant, parce que pour des raisons éthiques, heureusement, on ne peut plus faire ça, mais qui ont montré vraiment qu'ils avaient de l'empathie, par exemple. On sait très bien que...
L'empathie du rat.
Oui, l'empathie du rat. On sait très bien, par exemple, que si obtenir de la nourriture, ça nécessite qu'un congénère prenne une décharge électrique, le rat va arrêter de prendre de la nourriture. Après, j'ai une anecdote récente là sur les rats qui est délicieuse. C'est un voisin qui m'a raconté ça, c'est formidable. Il a quand il était plus jeune, dans son grenier, il constatait avec son grand-père le niveau de bouteilles d'huile qui diminuait tous les jours et des œufs qui disparaissaient. Et un soir, ils se sont cachés dans le grenier pour voir un petit peu ce qui se passait, et au bout de 2-3 jours, ils ont vu, en fait, pour l'huile, en fait, vous avez un rat qui s'occupait de déboucher la bouteille, un deuxième rat qui mettait la queue dans l'huile et qui sortait la queue pour que les autres...
Votre
c'est exactement ça, ça a fait penser à Ratatouille. Et encore plus fort pour voler des œufs, imaginez un rat qui se couchait sur le dos, les autres lui mettaient l'œuf sur le ventre et il le tirait par la queue pour pas que l'œuf tombe jusqu'au nid.
C'est
dingue. Je suis pas étonnée, la coopération chez les rats, ouais. ils ont aussi une très bonne mémoire spatiale.
Il y en a un troisième qui lui faisait des massages avec l'œuf sur le ventre.
Ah, ça, peut-être découvrir le coup de massage.
Pourquoi pas.
Écoutons ensemble le chant des baleines, et pour ça on part ensemble à Hawaï.
Les baleines à bosse peuvent retenir leur souffle pendant au moins 30 minutes. Ce n'est pas la seule prouesse dont ces baleines sont capables. Elles se laissent parfois dériver la tête en bas et se mettent à chanter. Comme chez les oiseaux, leur chant est répétitif. Il peut durer une quinzaine de minutes. Tous les mâles dans les eaux hawaïennes entonnent la même chanson qui évolue au fil du temps. Ces chants attirent parfois d'autres baleines. Les scientifiques ignorent ce qui motive leur présence. Il s'agit peut-être de mâles juvéniles qui écoutent et apprennent, tels les élèves, devant leur maître. Le baleineau aux nageoires blanches entend les chants et les ressent. Les sons émis sont si puissants et portent si loin qu'ils résonnent dans son corps.
Voilà, Yolaine Delabigne qui se pâme en entendant le chant du mâle.
Oui,
hein. C'est encore mieux que Julien Doré, ça, vous voyez.
Je reconnais, oui.
Alors, il s'appelle Pierre Lavagne, et il vous a raconté plein d'histoires de baleines à l'occasion de l'Université d'été des animaux.
Alors, il est incroyable, oui. Lui, c'est un musicien au départ, c'est un acousticien, et il travaille avec des scientifiques. Et sa différence, c'est que jusque-là, on travaillait sur un bateau avec des haut-parleurs. C'est un peu compliqué pour les baleines. Lui, il plonge vraiment, il a créé carrément un instrument de musique.
Ouais.
C'est Shelton Whale Project,
c'est
donc
ça.
C'est une espèce de gros coquille. coquillages, c'est une conque qu'il a fait d'ailleurs avec les gens de Nantes. Il a travaillé pendant 3 ans. C'est très sophistiqué. Bref, il peut descendre en apnée et il fait de la musique au fond à 15-20 mètres de profondeur. Et du coup, il peut vraiment avoir un dialogue avec les baleines. Et du coup, il a découvert des trucs incroyables qui ne sont pas encore, je précise
bien,
publiés. Oui, et surtout qui ne sont pas encore certifiés d'un point de vue scientifique. Mmh. Mais il y a des tas de gens, dont Pascal Pic, qui travaillent là-dessus. Première chose qu'il a découvert, d'abord, c'est que ce sont les mâles qui chantent à partir de 50 ans. Donc, il nous a fait écouter une école de musique, en effet. Vous entendiez le mâle comme on vient d'entendre. Et deux bébés derrière, un peu ridicule, d'ailleurs.
Ah, vous le faites bien.
Et c'était trop mignon. Donc, déjà, on avait la larme à l'œil. Et après, il s'est rendu compte d'un truc étrange, c'est que ces mâles ont un chant particulier à une certaine période. Il se demandait pourquoi. Et en fait, a priori, c'est quand la femelle est pleine, ces chants qui sont particuliers ont des effets vibratoires qui vont booster le phytoplancton, qui est la nourriture des baleines, qui vont donc s'enrichir en nutri-éléments, en oligo-éléments, etc., pour que le lait de la maman soit de qualité absolument parfaite quand le bébé va naître. Ah, mais ça va plus loin. C'est-à-dire que du coup, voyant ça, ils ont enregistré des sons, et là, en ce moment, ils sont en train de faire plein d'expériences dans les champs de vanille en Guadeloupe, à Nantes, ils font pousser des salades.
Avec des champs de baleines.
Avec des champs de baleines. Ils travaillent avec des apiculteurs, des viticulteurs. Et pour l'instant, réellement, alors c'est pas encore complètement publié, mais pour l'instant, ils voient que le miel est de meilleure qualité.
Ah
que,
oui.
Parce qu'on a l'impression que les végétaux, en fait, sont sensibles aussi à ces vibrations chimiques, finalement, ces vibrations. Et on pourrait, donc c'est là où je vous disais que l'animal pourrait aider l'homme. C'est-à-dire que grâce à ça, on pourrait faire pousser des végétaux de meilleure façon. Et alors, si j'ai encore 2 minutes.
Mais oui.
Là où c'est, là, avec lui, c'est un délire incroyable, c'est qu'il vous explique qu'il a découvert des vortex, donc des espèces de tourbillons dans l'eau, où la baleine va pour accoucher, pour que le bébé ne se fasse pas emporter par un courant. C'est sans doute un peu leurs hôpitaux aussi. Ils se rendent compte que les mâles y vont, font des chants particuliers quand les baleines vont pas bien, donc c'est sans doute un hôpital et une salle d'accouchement. Et l'autre truc incroyable aussi, c'est qu'ils sont en train de se rendre compte que les peuples premiers chantaient dans ces îles, ils chantaient, ils entendaient les baleines. Les baleines les entendaient. Donc on pense qu'ils se sont influencés mutuellement. Et ils ont un peuple de la Dominique qui s'appelle les Kalinagos, qui ont été complètement massacrés comme tous ces peuples-là, donc il ne reste plus rien, mais ils savaient qu'ils avaient de la musique. Aujourd'hui, ils sont dans des facs, etc. Ils sont plutôt très bons scientifiquement. Donc ils pensent que les chants des Kalinagos autrefois étaient inspirés par les baleines. Et le rêve de Pierre, c'est de partir pour un tour du monde de 8 ans pour enregistrer les baleines qui ont des chants régionaux. Elles ont des accents.
Comme les
elles
oiseaux,
ont des,
d'ailleurs.
Comme les oiseaux. La baleine d'Hawaï, elle n'a pas
c'est
le...
Ça, oui, oui.
Et pour essayer de faire des découvertes sur les peuples premiers. Mmh. Donc vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est vertigineux. C'est incroyable.
Emmanuel Pouydeba, oui. Chez justement les baleines ou les orques, il y a aussi une coopération très
particulière.
Oui.
Chez les baleines, si on reste un petit peu sur les baleines, chez la baleine à bosse, par exemple, il y a une coopération pour chasser les poissons.
Ouais.
Vous allez avoir des baleines qui vont essayer de rabattre les poissons, d'autres qui
vont... En créant des vagues, c'est
ça ? Alors, en créant des bulles, en fait, elles vont faire des bulles en faisant des ronds, des cercles, ce qui fait que les bulles en remontant vont former des cylindres dans lesquels les poissons vont être piégés. Et puis, vous allez avoir d'autres baleines qui, par coopération, vont attendre la remontée des poissons en surface. Et après, pour le chant des baleines, oui, je partage l'émotion. Hein, c'est juste magnifique. On sait que ça peut traverser les océans. Avec malheureusement une pollution,
la pollution sonore
qui fait que ça perturbe un peu leur communication. Mais
elles vont s'adapter.
Oui, j'en suis sûre. Mmh. Si on pouvait faire un petit effort, ce serait pas plus mal non plus.
Ah, c'est clair.
On sera sourds avant elles, oui. Certainement. Allez, on se retrouve dans un instant pour poursuivre cette discussion autour de l'intelligence animale et vos messages qui arrivent sur franceinter.fr.
Pau é pedra, é o fim do caminho, é o resto de toco, é um pouco sozinho, é um caco de vidro, é a vida, é o sol, é a noite, é a morte, é o laço, é o anzol, é peroba do campo,
é o nó da madeira,
canga, candeia,
é uma tita pereira,
é madeira de vento,
da rimanceira,
é um mistério profundo,
é o queira ou não queira,
é o vento ventando, é o fim da ladeira, festa da comida.
É a chuva chovendo, é conversa ribeira das águas de março, é o fim da canseira.
É o pé, é o chão,
é a mastradeira,
passarinho na mão,
pedra de atiradeira.
É uma ave no céu,
é uma ave no chão,
é um regato, é uma fonte,
é um pedaço de pão,
é o fundo do poço, é o fim do caminho. No rosto desgosto, é um pouco sozinho,
é um prego,
é uma ponta,
é um ponto,
é um pingo,
pingado,
é uma conta,
é um conto,
é
gesto.
É uma prata brilhando.
É a luz da manhã.
É o tijolo chegando.
É a lenha, é o dia. É o fim da picada. É a garrafa de cana. Estilhaço na estrada.
É o projeto da casa. É o corpo na cama. É o carro enguiçado. É a lama, é a lama.
É um passo.
É uma ponte.
É um sapo.
É uma rã.
É um resto
de mato.
Na luz
da manhã,
são as águas de março fechando o verão.
Minha promessa de vida no teu coração.
É um pau.
É João.
É José.
É um espinho.
Na mão.
É um corte.
No pé.
São as águas de março fechando o verão.
É a promessa de vida no teu coração.
É pau.
É pedra.
É o fim
do caminho.
É um resto
de topo.
É um pouco.
Sozinho. É um passo, é uma ponte.
É um sapo, é uma rã.
É um belo horizonte.
É uma febre terçã.
São as águas de março fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração. Pau.
Pedra. Sol.
São as águas de março fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração.
Pá,
pá, dá, pá, pá de barziza.
Zá,
zá, ziza.
Pá,
zá, na minha. Anda, dedê.
Pá,
dá, dedê.
L'union fait la force. C'est une recette gagnante dans le vaste règne du vivant. L'entraide commence dès que l'on fait équipe avec son voisin. C'est ce que font les dauphins en chassant de concert à 3 ou 4 pour rabattre le poisson. Les manchots s'entraident eux aussi en restant groupés, pas pour attaquer, mais pour se défendre. Voici leur ennemi mortel. Les orques se mettent à plusieurs pour rabattre les manchots en les effrayant à grands coups de queue. La chasse est difficile, car les manchots ont une tactique. Leurs bancs se divisent, se rassemblent, se divisent à nouveau, perdant les orques dans toutes directions. Cette ruse réduit la probabilité individuelle de capture. C'est ce même principe de fuite qui est adopté par les bandes poissons face aux requins. Dans ce jeu du chat et de la souris, les prédateurs s'unissent. Les proies s'unissent à leur tour dans leur course à l'efficacité.
Et l'efficacité, c'est souvent l'entraide, Emmanuel plus de bas. Hein.
Oui, l'entraide, la coopération. Alors des fois, oui, pour fuir des prédateurs, puis des fois pour se nourrir aussi. Là, on parlait de dauphins tout à l'heure. Enfin, on entendait des dauphins là au début de votre reportage. On sait que, par exemple, ils sont capables de se communiquer d'une solution. Par exemple, s'il y a un individu qui est soumis à une tâche pour obtenir de la nourriture et qui finit par trouver la solution, si un autre dauphin il va tout seul et qui trouve pas la solution et que vous mettez le dauphin qui l'avait trouvé, il va lui communiquer pour qu'ils puissent faire tous les deux l'action pour résoudre le problème. Après, ils coopèrent très bien. Ma première expérience en parc zoologique, c'était aux Autoiries. Je venais d'avoir mon bac. Je me suis fait piquer tout mon matériel grâce à une stratégie de coopération chez les macaques qui était très efficace. J'avais un côté où ils montraient les dents pour faire diversion et de l'autre côté, ils m'ont tout piqué. Donc ça marcherait très bien.
Et alors, vous parlez des outils dans le monde marin aussi. On utilise des outils chez les poissons, par exemple.
Alors, chez les poissons, on parle de proto-usage d'outils, c'est-à-dire qu'ils sont capables de faire comme peut faire une loutre ou un singe capucin en tapant sa noix. Et on a des labres qui prennent les coquillages dans la bouche et qui vont les frapper sur des rochers. Puis on a des poulpes aussi. On a un exemple, il y a une publication qui est sortie qui a montré que des poulpes étaient capables de prendre des noix de coco et s'enfermer dedans pour se protéger et puis de transporter l'outil pour jusqu'à un prochain stationnement protégé.
Incroyable.
Et un exemple qui me tient à cœur, parce que les lézards et les reptiles passent souvent pour des imbéciles, j'en discutais encore ce matin avec mon collègue Anthony Herel, qui est un spécialiste de ces animaux-là. On a un exemple d'alligator qui met des branches sur sa tête. Exactement.
Ah oui.
Pour attirer les grues.
Folie.
Exactement. Et les grues viennent et au moment que ça
la
sert
grue arrive.
Pas. C'est ça, la grue. La pauvre
toute
grue.
Fatiguée, un peu idiote, la grue, et boum.
C'est ça. Un peu idiote, la grue. Comment ça, un peu idiote? Je vous trouverai bien des contextes où elle est intelligente, la grue.
Violaine Delabigne, le biomimétisme aussi, c'est important. Vous en parlez aussi dans votre ouvrage « L'animal est-il l'avenir de l'homme ?»
Oui.
Parce qu'on s'inspire du monde animal dans plein de domaines. Hein.
Alors ça aussi,
et pour des technologies de pointe.
Voilà, c'est une nouvelle science absolument passionnante. Donc c'est Harry Tchetchak qui est venu et qui travaille avec l'équipe Cousteau et qui nous donnait plein d'exemples. Par exemple, la tour Eiffel, elle a été créée en s'inspirant du fémur, qui est un truc, notre fémur, l'air de rien, avec très très peu de matière et hyper solide puisqu'il nous porte. Donc c'est grâce à ça qu'on a la tour Eiffel. Bon, le TGV japonais, on a imité le Martin Pêcheur. Ou alors l'intelligence en dessin, moi ça me passionne. Nous, on est naze quand on a, vous avez vu, sincèrement, on est sur une autoroute, il y a un accident, ça y est, c'est 3 heures d'embouteillage. Vous remarquerez que les bancs de poissons, etc., il n'y a aucun problème. Il y a un requin qui arrive. Donc, les ingénieurs sont en train de travailler sur cette fameuse intelligence en essaim pour essayer de se débrouiller. Comment font les fourmis, etc., pour avoir jamais de problème. Ou alors, un autre exemple que j'adore, la moule. Elle est toute petite, elle est sur son rocher, vous avez des vents, vous avez des tempêtes, elle tient toujours. Bah oui, elle a une super colle. Une colle naturelle, pas mauvaise pour la santé comme les nôtres qui sont des colles qui sont très mauvaises à respirer. Donc il y a des Américains qui sont en train, ça y est, d'imiter la colle des moules.
On parlait des écrevisses au tout début. Les écrevisses ont une stratégie de prévention relativement simple par rapport aux nôtres. Et par exemple, dans le cadre de mes travaux, j'essaie de transférer mes données vers la robotique pour améliorer des saisies de
robots. Allez, on termine très vite avec les questions des auditeurs. D'abord, Georges qui nous dit 100% des personnes confrontées à un tigre qui allait les manger ont été incapables de les raisonner. Le tigre serait-il obtus? Bon, ça c'était pour
ça
plaisanter.
Ça dépend, il a faim ou pas.
Jean nous dit les corvidés sont capables de compter. Est-ce que c'est un trait d'intelligence, Emmanuel Prudebas?
Parmi d'autres, mais on peut être intelligent sans savoir compter. Hein. Le monde animal est plein d'exemples de ce point de vue-là. Mmh.
Mais les poussins savent compter à la naissance.
Oui, il y a plein d'animaux qui savent compter. Et
on a fait des expériences à la naissance, ils comptent jusqu'à 5.
Oui, mais c'est l'intérêt des travaux en laboratoire et en captivité, c'est qu'on peut montrer ce type de compétences. Mais bon, c'est pas parce qu'on sait compter qu'on est nécessairement intelligent, et l'inverse est vrai aussi.
Paul nous dit les capacités d'adaptation du loup à l'issue de leur retour en France, est-ce que ça ne résulte pas justement de son intelligence? On voit les populations qui sont en train d'augmenter là, en ce moment.
Oui, si on parle d'intelligence en termes d'adaptation, oui.
Mmh.
Oui, mais après on sait que les loups sont assez craintifs hein, des humains, donc ils vont trouver des stratégies.
Ils ont raison
entre nous. Oui, ils ont pas tort. Donc ils vont trouver des stratégies pour pouvoir survivre et se reproduire en étant éloignés des humains. Et ça
on a un message
bien.
De Christiane qui est bergère en alpage, qui a vu beaucoup de comportements intelligents d'animaux qu'on considère comme stupides, comme les brebis par exemple. Une fois, je gardais le troupeau dans un endroit escarpé, un renard fouinait dans un fourré, une agnelle a tenté de le faire fuir sans résultat, elle est donc retournée au troupeau, elle est revenue accompagnée de 2 congénères afin de faire partir le renard qui s'est enfui face aux 3 brebis menaçantes.
Coopération chez les brebis, je suis pas étonnée. Tous les animaux sont intelligents, il suffit de savoir les observer dans les bons contextes.
Il faut les regarder autrement.
Dès qu'il y a du vivant, il y a de l'intelligence.
Voilà. Il y en a même chez les bactéries, chez les végétaux, il y a des travaux
chez les bactéries, il y a de l'intelligence aussi.
Oui, chez les bactéries, pareil, si on parle en termes d'adaptation, on sait qu'il y a des bactéries qui sont capables de, par exemple, prendre les informations génétiques dont elles ont besoin chez d'autres organismes.
Violaine Delabigne, on se donne rendez-vous fin août, c'est ça, en Bretagne, près de Saint-Malo?
Fin août.
Université d'été des animaux.
De l'animal, avec Pierre Jouantin, Sabrina Krief qui travaille sur les médecins. Les animaux médecins, Robin Meyer qui est un artiste qui travaille avec des pigeons, que des animaux mal aimés, avec plein de gens, Christine Rollard pour les
J'y suis
les
pas, araignées. C'est un scandale.
Non, en 2018,
vous avec plaisir.
Vous avez un site internet l'animalelet'homme.fr, justement,
voilà,
pour avoir
le rendez-vous de l'intelligence animale.
Absolument. Ces deux ouvrages, L'intelligence animale chez Odile Jacob, Emmanuel Prudebas, et L'animal est-il l'avenir de l'homme chez Larousse. Merci beaucoup à toutes les deux.
Merci
et à
vous.
À très bientôt.
Merci beaucoup.
France Inter.
Santé polémique avec le docteur Dominique Dupagne.
Attention, je vais piquer.
Bonjour Dominique.
Bonjour Mathieu.
Vous vous intéressez cette semaine à notre nouvelle ministre de la Santé.
Eh oui Mathieu, car Agnès Buzyn est une scientifique, une vraie, ce qui n'est pas si courant à la tête de ce ministère. Professeure de médecine, elle a dirigé une unité de recherche INSERM et publié des dizaines d'articles de haut niveau. Elle a enfin dirigé l'Institut National du Cancer, puis la Haute Autorité de Santé jusqu'à sa nomination au sein du gouvernement d'Édouard Philippe.
Bon bah tout ça doit vous réjouir alors. Hein.
Oui, oui, et non en même temps. Parce
ah
que,
ça y est,
oui,
Mélenchon est de retour.
Voilà. Bah, Agnès Buzyn a manifesté à plusieurs reprises une position inacceptable sur les conflits d'intérêts des experts, considérant l'obligation légale de transparence comme handicapante et mettant même en doute la compétence des experts qui ne travailleraient pas pour l'industrie pharmaceutique.
Oh,
et quand
bien.
On sait le rôle qu'ont joué les conflits d'intérêts des experts dans les scandales pharmaceutiques comme celui du Mediator, c'est dur à entendre.
En effet, oui.
Oui, mais je veux quand même rester optimiste. Car en dehors de cette tâche sur le CV de notre ministre, il y a de bonnes raisons pour garder l'espoir.
Quelles sont ces raisons ?
Eh bien, pour commencer, tous ceux qui ont croisé Agnès Buzyn témoignent de son intelligence exceptionnelle et de ses qualités managériales. Et il se trouve que j'ai un faible pour les gens intelligents.
Du don, vous voulez rentrer au ministère, là, ou quoi ?
Non, vous avez... non. Ensuite, j'ai vu sur Internet une vidéo de son père, juif polonais déporté à 15 ans, qui a survécu pour devenir chirurgien orthopédique et qui est manifestement un homme extraordinaire. Or, je crois beaucoup à l'importance du berceau familial pour forger les personnes de qualité. Et si Agnès Buzyn n'a pas compris à quel point les liens d'intérêt perturbent gravement l'expérience, même inconsciemment, je compte aussi sur sa mère psychanalyste pour le lui rappeler car il s'agit d'un véritable fléau sanitaire autant qu'économique. Alors, on m'a rapporté qu'Agnès Buzyn serait capable d'écouter ses contradicteurs et de changer d'avis. Je suis peut-être naïf, hein, mais je veux y croire, d'autant qu'un compromis est possible.
Quel compromis ?
Eh bien, Agnès Buzyn a raison quand elle affirme que se priver de l'avis des experts liés à l'industrie pharmaceutique est impossible. En effet, c'est eux qui sont en pointe dans leur domaine, puisque la recherche médicale est quasiment exclusivement financée par l'industrie pharmaceutique. Mais l'erreur, c'est de nommer ses partenaires de l'industrie au sein des commissions sanitaires. Ils doivent être utilisés comme des témoins, des experts extérieurs, et être auditionnés, comme ça se pratique dans les concertations citoyennes ou les commissions parlementaires. Il existe alors une démarcation nette entre ceux qui expriment un point de vue et ceux qui prennent des décisions ou émettent des recommandations. Le mélange des genres entre l'expertise et la prise de décision est assez spécifique de la santé. On imagine mal que des décisions sur l'aménagement du territoire soient prises par des consultants de Bouygues ou de Vinci.
Oui, c'est vrai, oui.
Donc, j'espère que malgré ces déclarations passées, Agnès Buzyn prendra conscience de ce problème et apportera une véritable révolution éthique au sein des agences sanitaires.
Et je vous fais confiance pour suivre tout ça à la loupe et de très près. Merci Dominique et chronique à écouter sur franceinter.fr.